Radio France Internationale, 9h30 à Paris, il est 10h30 à Goma.
Nemo en piste.
Poursuite des combats ce dimanche matin dans l'est de la République démocratique du Congo. L'armée congolaise et ses alliés continuent d'affronter le groupe armé du M23 soutenu par le Rwanda aux alentours de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu, où les conditions de vie pour des centaines de milliers d'habitants sont plus que précaires. Plus d'eau, plus d'électricité et les ravitaillements qui pourraient venir à manquer. C'est dans ce contexte de forte tension que Kinshasa a coupé ses relations diplomatiques avec le Rwanda et que le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit en urgence cet après-midi. Un envoyé spécial auprès de l'Alliance des États du Sahel au Ghana, c'est le nouveau président John Dramani Mahama qui l'a nommé. Son nom, Larik Bevlo Larte, vous l'entendrez dans ce journal. Et puis l'inquiétude de dizaines de milliers de migrants africains après les annonces de Donald Trump. De retour à la Maison-Blanche, le président américain fait de l'expulsion des migrants illégaux l'une de ses priorités. L'est de la RDC pour débuter ce journal et les combats qui se poursuivent ce matin, notamment sur le front nord entre l'armée congolaise et ses alliés et le groupe armé du M23 soutenu par le Rwanda. C'est dans ce contexte que Kinshasa a rappelé l'ensemble de ses diplomates basés à Kigali et ainsi coupé les relations diplomatiques entre les deux pays. Les regards sont particulièrement tournés vers Goma, capitale provinciale du Nord Kivu. Des affrontements ont lieu non loin de la grande ville depuis quelques jours. Et sur place, s'amassent des centaines de milliers de déplacés venus trouver refuge. On en dénombre au moins 800 000, soit l'équivalent de la population initiale. Goma, où après la coupure des lignes à haute tension, il n'y a plus ni eau ni électricité. De quoi inquiéter les ONG humanitaires. Je vous propose d'écouter Clémentine de Montjoie. Elle est chercheuse au sein de la division Afrique de Human Rights Watch.
Ça aurait des conséquences absolument catastrophiques sur la situation humanitaire. Selon le droit de la guerre, les parties au conflit se doivent de faire le maximum possible pour faire la distinction entre les civils et les combattants. Donc, plus le conflit se rapproche de cette ville où se trouve aujourd'hui probablement environ 2 millions de personnes, le plus on voit les civils à risque d'être touchés par le conflit. Et le CICR a aussi sorti un communiqué disant qu'ils sont submergés de patients, et notamment des civils, des femmes et des enfants. Un autre problème à Goma aujourd'hui est que depuis la prise de Minova, plus tôt cette semaine, la dernière route d'approvisionnement pour Goma a été coupée. Les bateaux n'ont pas le droit de circuler entre Minova et Goma. Donc la ville se retrouve aujourd'hui entièrement encerclée. Donc la question de l'acheminement de l'aide humanitaire va être absolument critique alors que les hostilités se rapprochent de jour en jour.
Hier, l'Union européenne et les Nations unies ont réagi à la situation. Elles demandent au Rwanda de retirer leurs troupes présentes dans l'est de la RDC. Bruxelles évoque une violation flagrante du droit international et dit vouloir examiner tous les outils à sa disposition afin de demander des comptes aux responsables du conflit. Accusation rejetée par Kigali. Réaction un peu plus tard de l'Union africaine. Le président de la Commission, Moussa Faki Mahamat, dans un communiqué, appelle au strict respect du cessez-le-feu, mais ne condamne pas en revanche la présence de troupes rwandaises sur le sol congolais, de quoi fortement irriter Kinshasa. Autre réaction hier soir, celle du président français Emmanuel Macron. À l'Élysée, assure que le chef de l'État s'est entretenu par téléphone avec le Congolais Félix Tshisekedi et avec le Rwandais Paul Kagame. Selon cette même source, il a appelé à la fin immédiate de l'offensive du M23 et des forces rwandaises ainsi qu'au retrait de ces dernières du territoire congolais. Enfin, l'Allemagne appelle ses ressortissants à quitter l'est de la RDC. Vous suivez l'évolution de la situation dans notre prochaine édition consacrée à l'actualité africaine. Afrique Midi, rendez-vous 12h30, temps universel. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité est prévue à 15h, temps universel, à New York. La suite de cette édition au Ghana, où le nouveau président John Dramani Mahama s'est doté d'un nouveau membre au sein de son cabinet. Larik Bevlo Larte assurera le poste d'envoyé spécial auprès de l'Alliance des États du Sahel. Cet ancien haut gradé de l'armée a également par le passé été chargé de la lutte antiterroriste au sein de l'Union africaine. Notre correspondant à Accra, Victor Kariou, a pu s'entretenir avec lui dans la capitale.
Renforcer la coopération entre le Ghana et les pays de l'Alliance des États du Sahel afin de développer des politiques communes sur la lutte contre le terrorisme, la sécurité alimentaire ou encore la libre circulation des biens et des personnes. Voici le mandat qui a été confié à Larik Bevlo-Larté, envoyé spécial du président John Dramani Mahama auprès de l'AES.
Ces dernières années, cette relation n'a pas été au beau fixe. Nous voulons donc réaccélérer cette coopération. Il ne s'agit pas tant d'établir des accords internationaux ou des choses comme ça.
Une mission purement ghanéenne, totalement décorrélée de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, dont la sortie officielle du Burkina Faso, du Mali et du Niger sera actée ce mercredi 29 janvier. Larik Bevlo-Larté l'assure, la question de la réintégration de ces États dans l'organisation régionale ne figure même pas dans sa fiche de poste.
Ce sont des décisions souveraines que le Burkina Faso, le Mali et le Niger auront à prendre, mais le Ghana ne doit pas se mêler de leur choix. Ce n'est pas du tout une priorité pour nous.
Premier chantier de l'envoyé spécial auprès des États de l'AES, faciliter l'accès du port ghanéen de Tema pour ses partenaires enclavés. Victor Cariou, Accra, RFI.
RFI 8h36 à Dakar. Elle demande la légalisation de l'avortement médicalisé en cas de viol. Au Sénégal, les organisations de la société civile appellent les nouvelles autorités à respecter leurs engagements internationaux et à enfin appliquer l'accord de Maputo signé en 2004, un accord qui autorise l'avortement en cas d'inceste et de viol. Je vous propose d'écouter Oulimata Séné, coordinatrice à l'Association des juristes sénégalaises. Selon elle, il y a urgence à changer la loi au vu du nombre de cas de viol, alors que chaque année dans le pays, plus de 30 000 femmes risquent leur vie en avortant clandestinement. Des avortements qui sont l'une des principales causes de décès maternels au Sénégal.
On a recensé dans cette année 88 cas de viol sur mineurs. On demande de respecter l'article 14 du protocole de Maputo qui dit qu'en cas de viol et d'inceste, on doit autoriser l'avortement médicalisé. Ce qui n'est pas le cas en ce moment parce qu'on a tous les jours des cas de viol. Et récemment, on a un cas d'une fille de 4 ans qui a été violée, dont on a demandé à l'AJS de fournir un appui psychologique pour pouvoir suivre cet enfant. Et aussi l'autre exemple, la fille de 9 ans qui a été violée et qui est enceinte maintenant. Alors face à tous ces cas de viol, l'urgence est de travailler en synergie. L'État, c'est une continuité. Mais on doit aussi le sensibiliser, lui dire qu'il y a un protocole qui a été signé en 2004 par l'État du Sénégal sans réserve. Dans ce protocole-là, il y a un article 14 qui dit qu'en cas de viol et d'inceste, on doit autoriser l'avortement médicalisé.
Les propos d'Oulimata Séné, coordinatrice à l'Association des juristes sénégalaises, recueillis par notre envoyée spéciale permanente à Dakar, Léa Lisa Vesterov. Et puis, c'est l'un des grands axes du programme présidentiel de Donald Trump aux États-Unis, l'expulsion des migrants illégaux. À peine de retour à la Maison-Blanche, le nouveau président a décrété l'état d'urgence à la frontière sud avec le Mexique. Objectif, stopper les entrées illégales. Un décret qui inquiète des millions de migrants illégaux. Parmi eux, des dizaines de milliers d'Africains. Selon les données des douanes et de la protection civile, 58 000 migrants africains ont été enregistrés à la frontière avec le Mexique en 2023. C'est 4 fois plus que l'année précédente. Diarouga Aziz Baldé.
Mamadou Alpha Diallo est l'un de ces migrants africains entrés illégalement par la frontière sud des États-Unis avec le Mexique. Ce Guinéen vit et travaille à Philadelphie, en attente de son rendez-vous avec les juges d'immigration pour sa demande d'asile. Mais le décret du président américain sur l'état d'urgence à la frontière sud avec le Mexique ne le rassure pas.
Nous qui vivons encore ici avec ces mêmes procédures, nous avons toutefois peur. À tout moment, ce président peut prendre des décisions, des décrets qui annulent notre procédure. Il n'en tient qu'à sa tête. Il ne respecte pas les droits de l'homme. À mon avis, toute décision, il le prend subitement. Donc, il peut affecter les procédures.
Des procédures pour le droit d'asile que Donald Trump a qualifiées de ridicules. Il promet des expulsions massives. De quoi susciter l'inquiétude de Fadoul Zakaria, président de l'ONG Démocratie et Droits de l'Homme africain, qui aide les migrants dans leurs différentes procédures.
Les modalités ne sont pas encore connues de ces expulsions massives, mais ce qui m'inquiète moi personnellement, c'est que le ministère de la Sécurité intérieure a annoncé mardi qu'il mettait fin à une politique qui limitait la capacité des agents à arrêter des personnes sans papier, même dans les lieux sensibles, notamment les lieux de culte, les écoles et les hôpitaux. Donc il n'y a pas de place où on peut être à l'abri en fait.
Selon Fadoul Zakaria, les migrants africains en situation irrégulière aux États-Unis seraient près de 300 000 dispersés sur le territoire américain.
Et c'est avec Diarouga Aziz Baldé que se referme cette édition, 9h40 ici à Paris.